franchise.
À 13h, c'est Écoute Local, la playlist.
Ben non, les entrevues.
Mais non, c'est une playlist.
On s'est dit 13h, les entrevues.
Oui, c'est moi qui l'anime, là, je le sais, j'ai mon ça, là, je fais une sélection des artistes, là, puis tout le monde qui...
C'est... Et fais-la donc toute seule dans l'émission.
Bon, OK. Un lundi sur deux à 13h, je vous présente ma sélection des dernières sorties musicales de la Ville de Québec.
Un lundi sur deux à 13h, je reçois un artiste de la scène locale de la Ville de Québec pour jaser de musique. Avec Guillaume Pepin,
Émilie Rioux, Écoute Local sur les ondes de Chiz 94.3. Bon, t'es-tu contente, là?
Oui.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute Local. Écoute Chiz 94.3.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche, tous les jeudis matins de 9h à 11h. Sur les ondes de Chiz 94.3 avec Augustin Becci.
Question de savoir, l'émission des cycles supérieurs présentée par l'Association des étudiants et étudiantes de Laval inscrits aux études supérieures, l'Allier. Mon nom est Marie-Ève Duchesne et je suis attachée aux communications. Aujourd'hui, l'émission portera sur les maîtrises sur mesure en sécurité alimentaire et en équité, diversité et inclusion avec mes deux invités, M. Élie Sawadogo, qui est responsable de la maîtrise en sécurité alimentaire, et Mme Sophie Brière, qui est responsable, elle, de la maîtrise en équité, diversité et inclusion. Bonjour et bienvenue à Question de savoir.
Bonjour Marie-Ève, bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Merci pour cette invitation. Alors, avant d'aller plus en détail, j'aimerais simplement dire que si vous voulez faire partie des leaders de demain en sécurité alimentaire, pour faire une réelle différence dans la vie de plusieurs personnes en situation d'insécurité alimentaire, alors cette maîtrise en sécurité alimentaire est faite pour vous. Alors, il faut noter déjà que avec la présente crise sanitaire combinée aux conflits géopolitiques, aux effets des changements climatiques, tout ça, c'est a contribué à amplifier l'urgence alimentaire globale concernant justement donc cette question d'insécurité alimentaire. Et il est aussi important de noter que de tous les défis auxquels l'humanité est présentement confrontée, les enjeux liés à la sécurité alimentaire et à la santé nutritionnelle figurent parmi les plus importants. On parle de plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui ne sont pas assez bien nourries pour mener une vie.
L'émission des cycles supérieurs de l'Université Laval présentée par l'Association des étudiants et étudiantes de Laval inscrits aux études supérieures. Mon nom est Marie-Ève Chang et je suis attachée aux communications. Aujourd'hui, en cette journée du 8 mars et dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, nous vous proposons un tour de table sur le féminisme en 2022 et son avenir. Bonjour et bienvenue à Question de savoir à vous deux. Je vous laisse vous présenter.
Alors, mon nom est Diane Lamoureux. Je suis professeure émérite au département de sciences politiques de l'Université Laval. J'ai travaillé beaucoup sur le féminisme, l'antiféminisme, la citoyenneté et la démocratie. Voilà.
Donc, bonjour, mon nom c'est Ximena Aragon. Je dois dire que je me sens un peu groupie aujourd'hui, là, parce que ça fait des années que je cite vos travaux, Madame Lamoureux, fait que c'est vraiment le fun pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis conseillère en ressources humaines agréée. Je suis également candidate à la maîtrise en relations industrielles ici à l'Université Laval, où je fais partie de la chaire de recherche sur l'intégration de et la gestion des diversités en emploi. Donc, ça, c'est qui je suis.
Je vais tout de suite commencer l'émission en mentionnant que moi aussi, j'aime beaucoup ce que vous faites, Madame Lamoureux. Puis je pense que vos recherches, puis ce que vous avez appris aussi, vont pouvoir nous permettre de commencer sur le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est pour vous le féminisme en 2022?
Le féminisme en 2022 comme avant, d'une certaine façon, c'est un mouvement collectif en faveur de l'égalité et de la liberté des femmes. Ça veut dire que c'est un mouvement collectif qui lutte contre toutes les discriminations sur la base du genre. Et en même temps, c'est un mouvement qui ouvre la voie à une pluralisation de ce que être femme veut dire dans la société. Bon, c'est une réponse assez générale, mais je pense que c'est c'est un mouvement collectif parce qu'il y a une discrimination systémique à l'encontre des femmes, mais en même temps, c'est aussi toute une série d'actions individuelles ou de collectifs plus restreints. C'est aussi au Québec un mouvement assez organisé en termes de réseaux régionaux, de réseaux provinciaux, de multiplicité des collectifs féministes dans tous les domaines.
Oui, c'est sûr que moi, j'irais dans le même sens que Mme Moura. Je pense vraiment que le féminisme, il faut voir ça comme un mouvement, donc autant collectif, autant que les actions individuelles qui viennent vraiment soutenir ce mouvement-là. En 2022, c'est sûr que les luttes qu'on mène en 2022 sont peut-être différentes que celles qu'on menait au début du 20e siècle, comme on a obtenu le droit de vote, là, entre autres. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement les mêmes luttes exactement, mais c'est une continuation de ces luttes-là. Vraiment, c'est une continuation vers une atteinte de l'équité, là, puis équité vraiment dans toutes les sphères de la société, autant équité salariale. Là, donc, encore aujourd'hui, en 2022, bien, vous le savez, là, les femmes, ils vont avoir tendance à avoir une rémunération qui n'est pas aussi élevée que les hommes, mais aussi à avoir des emplois qui sont plus précaires. Donc, vraiment, une certaine atteinte de l'équité. Une équité aussi dans les chances de pouvoir progresser en carrière, pour pas que comme le fardeau des tâches familiales soit toujours aux femmes, qui peuvent vraiment être distribuées là, au sein des familles. Puis, je pense que comme pour atteindre cette équité-là, bien, il faut qu'il y ait un mouvement social, il faut qu'il y ait un mouvement qui continue à avancer pour pouvoir justement atteindre un jour cette équité-là.
Puis, est-ce que vous diriez que le féminisme d'aujourd'hui, de 2022, est un peu plus inclusif aussi parce que on inclut maintenant les gens qui s'identifient comme femmes ou non binaires, mais aussi j'ai cru voir avec la recherche que j'ai fait pour l'émission que le féminisme avant était beaucoup moins inclusif des diversités. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut affirmer, Madame Lamoureux?
Oui, je pense qu'il y a eu un progrès dans ce domaine-là, dans la mesure où, dans le début des luttes féministes à la fin des années 1960, début des années 1970, on a beaucoup mis l'accent sur ce qui était commun aux femmes et comme les membres des groupes féministes qui définissaient un peu ce qui était commun aux femmes étaient des femmes blanches de classe moyenne relativement scolarisées et vivant en milieu urbain, il y avait tendance à extrapoler leur situation sur la situation de toutes les femmes, mais en même temps ça correspondait à des enjeux qui n'étaient pas uniquement liés à ces femmes-là. Ok. Bon, maintenant, il y a eu une réflexion sur le fait que ça s'est déroulé sur plusieurs années. Je pense que au Québec, ça a vraiment commencé vers 1992 avec le Forum Québec féminin pluriel. Il y a eu une réflexion sur la diversité des situations sociales des femmes, même s'il y avait une oppression commune des femmes dans les sociétés. Et on a donc essayé de composer entre cette diversité-là des situations sociales liées à d'autres discriminations qui sont également présentes dans notre société pour avoir une approche qui part pas d'un seul point de vue, mais de plusieurs points de vue situés de femmes dans la société.
Puis, je pense que ça permet d'aller vers la deuxième question. Quelles sont les luttes auxquelles les femmes et celles qui s'identifient comme femmes doivent faire face maintenant? On parlait de diversité. Est-ce qu'il y a vous avez des exemples de luttes justement que les femmes doivent faire face maintenant, qui sont différentes peut-être de celles que, par exemple, ma grand-mère ou ma mère avaient à faire.
Bien, je pense qu'il y a vraiment l'aspect d'intersectionnalité là, qui a été abordé un petit peu plus tôt. Là. Comme, faut pas oublier que la société elle a changé aussi. Là, donc, veut pas, il y a des luttes qui vont venir s'annexer à la lutte féministe. Comme, entre autres, tout ce qui est comme l'insertion socio-professionnelle des femmes issues de l'immigration. Donc, ça s'amène à la lutte féministe, là, parce que c'est pas juste une lutte pour les personnes immigrantes, c'est aussi une lutte des femmes. Il y a beaucoup de femmes immigrantes qui accompagnent leur partenaire, leur mari qui obtient un emploi au Québec, puis leur insertion socio-professionnelle ne se fait pas tout le temps de façon aussi adéquate, parce qu'elle ne va pas nécessairement être sur le marché de l'emploi, elle aussi. Donc, je pense qu'il y a certaines luttes comme ça qui viennent, justement, c'est de coller aux luttes féministes parce que ça touche pas seulement les personnes immigrantes, ça touche beaucoup les femmes. Donc, je pense que ça vient, le fait que la mondialisation aujourd'hui, ça vient faire en sorte aussi là, que comme les luttes viennent se transformer, mais que le sens, il reste quand même le même.
Puis, je pense qu'on pourrait ajouter que malheureusement, il y a encore des affaires qu'on pensait acquises et qu'il faut défendre. Bon, je pense entre autres à la question de l'avortement et de façon plus générale de la liberté reproductive. On a régulièrement des remises en cause. C'est notre situation au Québec est moins pire que aux États-Unis où on a une remise en cause légale du droit à l'avortement, mais il y a quand même c'est pas le secteur prioritaire de la santé publique, ce qui fait que si on a le droit, mais si on n'a pas les services qui suivent, ça pose problème. Bon, ça, c'est un enjeu. Il y a aussi des enjeux liés, Rimena en a parlé, à toute la question du travail des femmes. La pandémie nous a montré, si c'était nécessaire, que on est loin, même si ça fait plus que c'est presque 25 ans qu'on 20 ans qu'on a une loi sur les plus que 20 ans presque 25 ans qu'on a une loi sur l'équité salariale que les salaires des femmes les femmes occupent des emplois plus précaires, mal payés, déconsidérés, mais qui sont fortement utiles pour l'ensemble de la société. Si on n'avait pas eu dans la pandémie les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, ça aurait été encore pire que ça a été. Bon, les caissières dans les supermarchés, bon, il y a beaucoup d'emplois comme ça qui sont dévalorisés, sous-payés, qui sont souvent occupés aussi par des femmes racisées. Donc ça, c'est un enjeu important, revoir les mécanismes de l'équité salariale. Un autre enjeu important, selon moi, c'est toutes les questions de violence. Là aussi, la pandémie a mis en lumière certains phénomènes, mais la violence sexiste n'a pas disparu avec MeToo. Le traitement judiciaire de cette violence sexiste, disons, laisse à désirer dans ses formes actuelles. On peut pas encore juger de l'effet du tribunal spécial qui est en voie de création. La question de la violence conjugale qui est une violence des hommes, qui est largement une violence des hommes à l'encontre des femmes et des enfants, c'est pas réglé non plus. Le harcèlement en milieu de travail qui force beaucoup de femmes à quitter des emplois parce que le climat est toxique, c'est pas non plus réglé. Donc, on a énormément d'enjeux liés à la violence qui sont encore malheureusement d'actualité.
Est-ce qu'il y a des enjeux que vous diriez qui se sont modifiés depuis le temps, justement? On parle d'harcèlement en milieu de travail, on parle de violence. Est-ce que ces enjeux-là étaient déjà là auparavant ou on en a une nouvelle forme maintenant?
Bien, c'est juste que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont accentué le fait qu'on en parle maintenant de la violence, parce que la violence en milieu de travail, c'est pas juste physique non plus, là, c'est aussi la violence psychologique. Là. Puis peut-être qu'avant, on était moins sensibilisé à qu'est-ce qui est comme l'harcèlement psychologique en milieu de travail. Peut-être que comme on en faisait, puis on s'en rendait pas compte. Là. Puis depuis les dernières années, avec surtout avec la loi qui est apparue, là, je pense qu'il y a plus de sensibilisation par rapport à ça. Puis il y a beaucoup de personnes qui regardent leurs actions et font comme « Mon Dieu, j'aurais jamais cru que ça constituait de la violence psychologique en milieu de travail. » Donc, oui, je pense que ça a évolué parce que c'était quelque chose de tabou peut-être, là, qu'on n'en discutait pas. Puis aujourd'hui, on commence à en discuter. Ceci étant dit, ce n'est pas parce qu'on commence à en discuter, ce n'est pas parce qu'on a une loi qu'on a fait disparaître l'harcèlement psychologique en milieu de travail. Là.
Puis, c'est vrai qu'il y a des sujets qui émergent par des facteurs de conjoncture. Là. Le mouvement MeToo a révélé l'ampleur de la violence sexiste mais c'est quelque chose, les mouvements contre la violence faite aux femmes, il y en existe depuis les années 70. Les premiers refuges pour femmes victimes de violence sont apparus au début des années 70. Donc c'est pas quelque chose qui est neuf pour le mouvement féministe, mais il y a des prises de conscience et il y a des avancées aussi, je veux dire ça fait 50 ans qu'on se bat, ben, ça a donné des résultats. Et puis, des fois, ça oblige à reconsidérer pourquoi on se battait. Dans les années 70-80, on se battait pour l'avortement libre et gratuit. Okay. Depuis, on a réalisé que le déni d'autonomie des femmes en matière d'avortement et de contraception, ça se doublait, par exemple, de la stérilisation forcée des femmes autochtones, du fait qu'on enlève plus souvent les enfants aux femmes autochtones ou aux femmes racisées, et la justice reproductive. Donc, on a remplacé l'avortement libre et gratuit par l'idée de justice reproductive pour couvrir un champ de déni de l'autonomie des femmes en matière de décision. C'est pas pour dire que c'était pas bon de se battre pour l'avortement libre et gratuit, mais que ça suffisait pas d'une certaine façon.
Puis on va aller en pause musicale pour continuer la discussion. On va écouter Angèle avec la pièce Libre que j'ai choisie pour le thème de l'émission. Et par la suite, on va continuer la question de savoir, de parler de féminisme en 2022 et surtout de l'avenir du féminisme et comment on peut arrimer le féminisme avec ses études universitaires ou encore son militantisme. On vous revient à la question de savoir.
Je creuse et je sonde toutes mes rides, tous les silences de la ville. J'avoue, je t'ai cherché un peu. Je fuis les angles morts et je souris dans le miroir pour mes amis. J'y mets tous ceux qui ne voient. Rien. temps à espérer être quelqu'un d'autre et m'en aller. Je ne veux plus partir de moi.
De retour à Question de savoir, l'émission des cycles supérieurs de l'Allier. On parle présentement avec Jiména Aragon et Mme Diane Lamoureux de féminisme en 2022, mais on va aussi toucher à un sujet qui nous est important aussi à l'Allier, c'est le féminisme et les études universitaires et la recherche. La question que j'aimerais vous poser à toutes les deux, c'est comment peut-on arrimer féminisme et recherche universitaire ou études ou encore son militantisme?
Bien, je pense que pour la recherche, je veux juste toucher un aspect parce que je pense qu'on pourrait en parler vraiment longtemps, mais je pense qu'il faut vraiment encourager les femmes à publier. Je pense que les femmes n'ont pas une grande, grande place dans la recherche, dans les publications, bien, dépendamment du domaine d'études, évidemment, là, mais il y a certains domaines où que c'est vraiment majoritairement masculin et il n'y a pas assez de femmes qui publient. Et je pense vraiment qu'il faut encourager les femmes à publier. Il faut vraiment que, comme le syndrome de l'imposteur, comme on fasse en sorte qu'il ne soit plus là, parce que je pense que c'est en voyant plus de recherche puis plus d'articles qui sont rédigés par des femmes que d'autres femmes vont pouvoir comme faire comme ok, c'est faisable, c'est pas vrai que ce domaine-là il est uniquement pour les hommes. Les femmes aussi peuvent avoir leur mot à dire puis peuvent être pertinentes dans ce domaine-là. Donc moi, par rapport à la recherche, je pense que je pourrais dire ça là, c'est important qu'il y ait plus de femmes qui publient, puis c'est important aussi qu'on encourage nos collègues à publier plus.
Mais je pense aussi qu'il faut voir que dans les universités, il y a eu des progrès là dans les dernières années. Quand moi je suis arrivée comme professeure à l'Université Laval au milieu des années 80, il y avait pas beaucoup de femmes. Ça a progressé, je sais plus où c'est rendu, mais c'est certainement pas 50-50. Okay. Puis il y a des domaines qui sont des domaines quasi entièrement masculins encore, principalement dans le domaine des sciences et des technologies là. Donc la première chose, ce serait c'est encore d'actualité d'avoir plus de femmes qui enseignent dans les universités. C'est aussi d'actualité d'encourager les femmes à poursuivre des études supérieures. Vous êtes une association d'études supérieures. Très souvent, les bonnes étudiantes de bac, on va les embarquer comme assistantes de recherche au niveau de la maîtrise. Puis, on va les trouver tellement bonnes comme chercheuses qu'on ne va pas les encourager à faire leur doctorat. On va les garder comme professionnelles de recherche, etc., mais ils vont plafonner très vite, OK? Je pense que, il faudrait songer à des programmes de bourse pour inciter des femmes à faire des études supérieures. C'est encore de mise. Au niveau des étudiants de doctorat, on n'est pas à 50-50, là. Je pense que vous avez vos statistiques, là. Je ne les ai pas regardées récemment, les statistiques, mais je suis sûre qu'on n'est pas à 50-50, et en tout cas pas dans tous les domaines. OK. Probablement qu'il y a plus de femmes en littérature qu'il y en a en sciences et génie, par exemple. Bon. Donc ça, c'est par le moyen... avoir des femmes qui sont profs, ça fait en sorte qu'il y a des femmes qui puissent encourager d'autres femmes à poursuivre des études supérieures. Avoir plus de femmes qui poursuivent des études supérieures, ça augmente la possibilité d'avoir plus de femmes profs. Ça implique que, on en est encore à devoir faire de l'action positive dans ce domaine-là. Là. On n'est pas sorti du bois. Ça implique des programmes de bourse. On a des outils. Il y a des programmes d'études féministes dans la plupart des universités, mais qui sont souvent tenus à bout de bras par une personne ou deux, souvent de façon presque bénévole.
Bon, c'est moins bénévole que quand moi j'ai commencé dans ce domaine-là, mais c'est du monde qui font ça en su de leur autre carrière, si on veut, donc très souvent, ce qui fait qu'il y a beaucoup de discontinuité et il n'y a pas... à l'Université Laval, on publie quand même, justement pour revenir sur la question des publications, il y a quand même la revue Recherche féministe qui existe. Mais ça publie deux fois par année, ça peut pas absorber toute la production de tout le monde là. Il y a aussi à encourager les autres revues scientifiques à inclure plus de contenu féministe dans leurs publications, pas un numéro ces femmes une fois aux 15 ans. T'sais.
Ou une fois pour le 8 mars par exemple.
Ouais.
Là, c'est ça, oui.
Puis du côté du militantisme, est-ce qu'on peut arriver justement le féminisme et le militantisme? Est-ce que vous voyez, par exemple, je sais pas, vous, vos travaux, Madame Lamoureux, est-ce que vous voyez ça comme du militantisme en quelque sorte?
Ça dépend. Je pense pas qu'on... Bon, il y a des travaux qu'on poursuit parce que ça nous intéresse comme chercheurs, je pense qu'il y a diffusé... Bon, c'est vrai que pour progresser dans la carrière universitaire, il faut diffuser dans les réseaux scientifiques reconnus. Mais je pense que on a une responsabilité, quand on est une féministe, de diffuser ailleurs, d'aller voir dans les groupes de femmes, dans les regroupements, dans des colloques qui sont pas juste ouverts aux universitaires, etc. Ça, c'est une première chose. Il y a aussi le fait on peut militer dans une association étudiante, un syndicat, des trucs comme ça. Donc, amener les enjeux féministes dans ces groupes-là, c'est important. Mais des fois, ça n'en fait... de ce point de vue-là, c'est toujours bon de ne pas être seul de sa gang quand on fait ça. On se sent moins isolé, puis on se sent moins impuissante aussi.
Mais je pense qu'il y a beaucoup l'aspect de savoir vulgariser aussi, savoir sensibiliser. Donc, on fait de la recherche avec une approche féministe. Je pense qu'on peut militer quand même. T'sais, on va pas aller dans des colloques, on peut donner des conférences, on peut justement, comme aujourd'hui, là, finir à une émission de radio pour pouvoir parler de nos travaux et tout. Puis en vulgarisant ce qu'on fait, en sensibilisant la cause, puis expliquer vraiment qu'est-ce qu'est le féminisme, comment que ça s'applique quotidiennement, parce qu'il faut aussi l'appliquer quotidiennement. Donc, prendre une situation et expliquer comment l'approche féministe peut vraiment faire en sorte qu'on voit cette situation-là d'une autre façon qui est plus égalitaire et plus équitable pour les femmes également. Je pense que comme en tant que chercheur, on peut vraiment comme concilier le fait d'être chercheur et le fait d'être militante via justement la vulgarisation des connaissances, puis vraiment comme prendre le temps de sensibiliser l'entourage scientifique puis l'entourage étudiant universitaire sur l'aspect que l'égalité n'est pas encore atteinte, puis c'est à plusieurs niveaux, donc autant micro, macro, puis vraiment prendre le temps là, de comme prendre une situation et la vulgariser. Je pense que c'est comme ça qu'on va peut-être faire en sorte que quelqu'un va faire comme « wow, j'avais pas vu ça comme ça », et on va enclencher une réflexion, puis je pense que ça va faire partie de la lutte féministe, de comme on continue à avancer en tant que mouvement. Là.
Ça fait une bonne façon d'aller à notre dernière question. Quel est l'avenir du féminisme? On a parlé de l'avenir du féminisme en 2022, ce que c'est, les luttes qu'on a présentement. Quel est l'avenir de ce mouvement-là pour terminer l'émission, selon vous?
D'une certaine façon, c'est malheureux, mais c'est encore nécessaire, le féminisme. Moi, je trouve que l'avenir du féminisme, c'est de devenir inutile, ultimement. C'est-à-dire qu'on vive dans une société où le sexe n'est pas un facteur de discrimination. On est loin de là. Le féminisme a un avenir. Les enjeux qu'on a nommés sont parmi les enjeux qui vont structurer le féminisme à l'avenir.
Mais je pense qu'encore aujourd'hui, le 8 mars, c'est important. Là, puis pas juste le 8 mars, mais comme quotidiennement, c'est rappeler que comme l'égalité n'est pas encore atteinte. Là. C'est encore essentiel là, qu'on puisse se rappeler de tout ça. Puis il y a encore beaucoup de monde qui confondent la journée de la femme et la Journée internationale des droits des femmes. Là, comme, tu sais, on n'est pas une deuxième Saint-Valentin. Là, comme, on est là vraiment pour rappeler que les droits des femmes, ben, on n'est pas encore équitable à plusieurs niveaux. Donc, on en a parlé autant comme niveau académique, l'équité salariale et tout. Il faut continuer la lutte. Puis, tant aussi longtemps qu'une femme n'aura pas les mêmes opportunités puis qu'un homme, ben c'est sûr qu'à ce niveau-là, ben il faut continuer la lutte, puis il faut la continuer collectivement aussi là, puis il faut que les hommes soient des alliés de la lutte féministe également là. C'est pas une lutte qu'on va gagner toute seule là. C'est vraiment en ayant des alliés qu'on va être capable d'avancer plus. Donc je pense qu'en 2022, c'est encore pertinent, c'est encore important de le rappeler. Puis, tant aussi longtemps qu'on ne sera pas 100% égalitaire et puis qu'on ait les mêmes chances, bien, ça va être important qu'on continue là, à célébrer le 8 mars et qu'on se le rappelle à l'année longue que la lutte féministe doit continuer.
Puis, si je peux ajouter quelque chose, je pense qu'il y a, je veux dire, il y a ce discours qui est très pernicieux ici où on nous